quand on parle de flux financiers illicites, ça englobe quoi exactement?
Ben écoutez, les flux financiers illicites, d'ailleurs, il faut d'ailleurs constater que c'est une forme des fuites de capitaux. Donc c'est bien au-delà des fuites de capitaux. Alors il faut d'abord savoir qu'il s'agit d'argent qui est plutôt illégalement acquis et bien sûr transféré pour finalement ne plus réapparaître. C'est ça l'idée de base d'un flux financier illicite. Deuxièmement, cet argent, ben, généralement, il ne faut surtout pas qu'il soit enregistré dans un pays, soit d'origine, soit d'accueil, d'une manière ou d'une autre. Donc on frôle vraiment la fraude, voire la contrebande. Alors, on est sûr que les gains qui sont faits avec cet argent qui est parti ailleurs, ces gains ne reviennent, en tout cas, quasiment jamais dans le pays d'origine, à la différence d'un investissement étranger direct, par exemple, qui peut être réinvesti. Et il y a un quatrième point qui est aussi important, c'est que c'est organisé de telle manière, non seulement on ne les compte pas, mais on ne les voit pas dans les comptes nationaux ou dans les balances des paiements. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec tout ce qui est fuite des capitaux et autres. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans la contrebande, dans des mouvements, des transactions qui, surtout avec des sociétés écrans ou des structures écrans, bah, finissent par disparaître exactement, et dont les montants peuvent être relativement élevés et dépendre énormément des institutions qui choisissent le mode qu'ils veulent en fait pour compter ou ne pas compter un certain nombre de choses. Ce que fait l'Europe n'a rien à voir avec la Banque mondiale, encore moins avec un certain nombre d'institutions africaines.
Très bien. Alors, ces flux financiers illicites ont un impact sur les économies africaines. Quel est cet impact?
L'impact, il est absolument évident. Le premier, c'est que c'est un manque à gagner. Le plus simple, un montant qui équivaut en gros à peu près la dette de chacun des pays, à peu près, pour rester très simple. Mais quand on le voit au niveau africain, sincèrement, si cette somme était entre guillemets visible, ben on pourrait payer d'une seule pierre l'ensemble de notre dette africaine, donc, et à côté de cela, voire même réinvestir une bonne partie dans les projets d'investissement à moyen et long terme, notamment les infrastructures. Donc les montants sont relativement importants, quels que soient les montants d'ailleurs, et il faut savoir que ce n'est pas une spécificité africaine. On constate en fait qu'il y a des pays, notamment l'Asie, tout simplement, qui sont largement au-dessus de l'Afrique. L'Europe, on sera étonné. Bien sûr, la région arabe, Maghreb, surtout la région arabe du Golfe, par exemple, et je ne vais pas aller aussi dans l'Amérique latine. Donc vous voyez bien que ce sont des montants qui sont relativement importants, surtout quand ils vont se réinvestir, entre guillemets, dans les pays, disons, dits riches, qui bon, ont un système financier qui permet, justement, avec les marchés financiers, de faciliter cette disparition, entre guillemets, de la visibilité de cet argent.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de contrôle actuellement sur le continent?
Sincèrement parlé, la réponse est plutôt non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des instruments qui ont été mis en place pour essayer d'identifier telle ou telle sortie d'argent. Le problème est le suivant, c'est que pour mettre un moyen de contrôle en place, il faut nécessairement que les acteurs concernés, donc les gouvernements, soient d'abord d'accord. Et c'est tout le problème. Sur quoi sont-ils exactement d'accord? On ne sait pas trop, puisque dès lors qu'il s'agit de leur propre cas, ils ne veulent pas le mettre en valeur. Je crois savoir même que dans le cas de l'évaluation par les pairs du NEPAD, qui est la structure qui est en Afrique du Sud liée à l'Union africaine, qui est censée d'ailleurs voir un peu où est-ce qu'on peut récupérer un certain nombre de manques à gagner pour les réinvestir dans les pays, cet aspect justement du côté illicite, des flux financiers illicites, ont été mis de côté. Si vous voulez insister, ben, généralement, ben, l'évaluation même n'a pas lieu. Pour vous montrer que déjà au niveau national interne, il y a beaucoup de réticences. Deuxièmement, il faut que ce soit une action collective. Vous voyez, si c'est un seul pays le fait, ben, écoutez, je vais dans le pays voisin. Alors, nous fonctionnons plus ou moins sur des bases régionales, CDAO, CEMAC, etc. Là aussi, la volonté y est sur papier, mais en réalité, vous connaissez bien le poids de nos institutions sous-régionales économiques, elles sont très difficilement contrôlables. Si vous rentrez en plus dans la zone franc, l'UMOA par exemple, c'est encore plus compliqué, puisque ne peut être visible que ce qui rentre en fait dans les comptes nationaux et qui passe par le compte d'opération et donc le trésor français.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des instruments. Quels sont les instruments de contrôle qu'il y a, ou bien quels sont les instruments de contrôle possibles?
Ben disons possible, je préfère choisir le mot possible, puisque quand on parle d'argent, maintenant soyons beaucoup plus larges, quand je prends un diamant d'un pays X, Congo pour pas le nommer, République démocratique, et je l'amène à Anvers, et que je le fais expertiser là-bas et que je prends de l'argent cash que je réinvestis dans un investissement quelconque, fonds d'investissement ou dans une entreprise, vous voyez bien qu'il y a plusieurs transactions qui ont lieu. Dans le pays d'origine, commençons par le Congo. Quelle est la structure et l'instrument financier qui peut permettre ça? Très difficile. J'ai un passeport diplomatique et que je quitte ce pays. Vous n'allez voir que rien du tout. Une jolie pierre, regardez le montant important que ça représente. Je n'ai pris que cet exemple-là. Il y en a plusieurs autres. Hein. Il y a d'autres qui sont des transactions commerciales. Je vais vous vendre un équipement XYZ et vous me payez dans une matière première, tout simplement, qui est tout simplement un troc, ce que font surtout les pays asiatiques. Et on ne solde que le compte en fin de mois ou en fin d'année, suivant ce qu'on s'est arrangé. Et surtout, il y a deux comptes. Il y a le compte principal sur lequel vous n'allez pas voir apparaître grand-chose. Ce compte, lui, va avoir des montants qui vont passer effectivement dans les comptes nationaux ou les balances des paiements, généralement sous-estimés, largement. Et un autre qui va passer sur des banques, généralement qui ont pignon sur rue d'ailleurs, des grandes banques, et vous allez très rapidement perdre parce que c'est tout un système bien organisé qui peut passer de 2, 3, 5 à quasiment 40, 50 types de sociétés écrans, généralement virtuelles, donc informatisées, et donc c'est très difficile de suivre ça à la trace. Et en plus, ça change géographiquement de lieu. Vous pouvez passer d'un continent à l'autre quasiment dans la même journée 3 ou 4 fois.